Voilà. Oui, c'est. Ah ben voilà, ça se confirme, je ne manque pas d'air. Ah, c'était vraiment chouette de pouvoir louer le Seigneur. J'avais l'impression qu'on avait toujours joué ensemble toute notre vie, hein? Non, mais c'est vous autres. Vous êtes inspirants. Voilà. Eh bien, je ne suis pas dépaysé ce matin parce que depuis 9 mois à peu près, ouais, 10 mois, nous habitons à 1100 mètres d'altitude, ce qui fait que monter jusqu'à la Chaux-de-Fonds ou alors descendre en plaine pour remonter, eh bien voilà, c'était presque comme si c'était un chemin connu, quoi. Et ça fait plaisir de vous voir. Vous allez bien? Vous avez vu ce beau temps, hein? Alors nous avons beaucoup eu de plaisir de faire la route parce qu'il y avait toutes les Alpes dans leur splendeur qui s'offraient à nous. C'était merveilleux. J'aimerais d'abord adresser une salutation toute particulière à deux chers bons vieux amis, Daniel et Jean Calame, avec qui j'ai eu l'occasion d'arpenter le pays de Jésus. À l'époque, il y a bien quelques années, oui, mais ça a été un temps magnifique et j'ai un souvenir formidable de la part de Daniel et Jean Calame. Comment? Ils sont là. Ah ben, c'est merveilleux. Ah là là, que de bons souvenirs. Alors, si vous étiez dans une église traditionnelle, vous auriez droit au calendrier liturgique qui, immanquablement, dans cette période entre Pâques et l'Ascension, vous ferait arpenter l'Évangile par rapport au récit qui se trouve entre la résurrection de Jésus, l'apparition aux disciples et la montée de Jésus auprès du Père. Alors moi, je ne suis pas très traditionnel, mais je vais quand même vous donner un texte de saison à méditer. Et j'ai donné un titre à ma prédication, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse, si on va pouvoir. D'accord. Voilà. J'ai donné un titre, La pêche est ouverte. Alors, pour les chaudefonniers, ça ne va pas signifier grand-chose parce que pour aller à la pêche, c'est soit au Doubs, quand il y a encore de l'eau, ou au lac de Neuchâtel, où vous allez pouvoir pêcher la perche, la ferra, la brondelle, enfin toutes sortes de choses merveilleuses. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 21, que je vous invite à lire ou à écouter si vous n'avez pas pris de Bible ou si votre smartphone n'a pas l'application Bible. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'enseigner pendant à peu près 20 ans, à temps partiel, dans l'instruction publique vaudoise, où j'ai été réquisitionné pour l'histoire biblique et la musique aussi. Ça n'était pas du tout dans le plan de Dieu, dans mon plan à moi, mais c'était dans le plan de Dieu, pardon. Et pour la petite histoire, le Seigneur m'a renvoyé enseigner dans l'établissement secondaire où j'avais moi-même souffert pour ma foi en tant qu'enfant et adolescent. Sujet de raillerie, de moquerie et de brimade, parce que j'étais un môme, comme on dit dans le canton de Vaud. Un môme. Les môme, c'est ceux qui vont à l'église. Les bigots, c'est comme ça qu'on les appelle dans le canton de Vaud. Je vois qu'il y a une barrière culturelle incroyable. Et un des principes de l'enseignement, c'est de dire, un texte qu'on entend, on le retient à 5%. Mais un texte qu'on entend et qu'on lit en même temps, on le retient à 25%. C'est pour ça que j'aime voir les chrétiens qui ouvrent leur Bible ou qui suivent le texte pendant qu'on le leur lit. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pléthore de versions. Et quand vous entendez une version et que vous lisez une autre, vous pouvez comparer tout de suite. Votre cerveau fait la comparaison et tire la richesse de la comparaison. Alors, on y va. Jean 21, les versets 1 à 17. Vous avez là la reconstitution d'une barque du temps de Jésus, peut-être similaire à celle que les disciples ont empruntée. Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons, nous aussi, avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non !» Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Hé, c'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire environ 60-70 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus lui dit, « Venez manger. » Mais aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Alors imaginez un peu la scène. Quelques disciples de ceux qui avaient renié et abandonné Jésus, de ceux qui l'avaient pourtant vu ressuscité. Et voilà de retour à la maison. Après l'hallucinante aventure à Jérusalem, aventure au cours de laquelle leurs illusions sont mortes, Jésus ne sera jamais celui qui va bouter les Romains hors du pays. Et jusqu'à la venue de l'Esprit-Saint, ils étaient encore à se poser la question si Jésus était un messie politique. Et s'il n'allait pas, est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir Israël ? Ils sont encore dans ce schéma ? Eh bien non, Jésus ne va pas être celui qui va bouter les Romains hors du pays. Mais ils sont un peu désemparés à ce stade de l'histoire. Puis on entend Simon, Pierre, qui dit aux autres, « Je vais pêcher. » Sous-entendu, peut-être, c'est ce qu'on n'aurait jamais dû arrêter de faire. En fait, il prend la décision de retourner à son ancienne vie. Tenant. Et vu que dans le clan des disciples, il a toujours été le meneur, il continue à tenir ce rôle. « Je vais pêcher !» Mais les autres suivent, quoi. Au moins là, ils ne vont pas être déçus. Ils vont réussir. À quelque part, ils vivent l'échec de leur démarche à suivre celui qu'ils pensaient être la réalisation de leurs attentes, de leurs rêves. Et voilà que la pêche tombe à l'eau, ou plutôt elle n'en sort pas. Toute la nuit, imaginez. Sans doute que c'est une situation connue des pêcheurs professionnels. Parfois, ils reviennent bredouille, sans même une sardine. Rien de particulier. Mais, hormis que pour un redémarrage professionnel, c'est plutôt raté, n'est-ce pas? Mais ce qui les fait sursauter, c'est l'interpellation venant du rivage. Enfin, n'avez-vous rien à manger? Non? Comment ça? Jeter les filets de l'autre côté du bateau? Ils ont comme l'impression d'avoir déjà vécu cette scène-là. Vous savez, des fois, on vit une situation présente, puis on se dit, mais j'ai déjà vécu ça quelque part. J'ai déjà vu ça, ou déjà vécu ça, j'ai entendu ça dans le passé. Ça vous a jamais fait cette impression-là, des fois, hein? Voilà. Ben voilà, ils se disent, tiens, c'est une scène déjà connue. Mais c'est le résultat de la pêche miraculeuse qui va ouvrir les yeux des disciples. C'est le Seigneur. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu d'emblée? Bien, c'est que Jésus a été glorifié par la résurrection. Et Jésus ressuscité n'a peut-être pas tout à fait la même apparence que celle qu'il avait auparavant. Et on peut avoir peut-être d'autres explications, mais je pense que c'est une bonne explication. D'autre part, il ne s'attendait pas à le voir là. Il l'avait vu ressusciter à Jérusalem. D'un coup, pouf! Ils y jettent? Non. J'aimerais tout d'abord attirer notre attention sur les personnages dans le bateau. Parce que, à quelque part, ils ont quelque chose en commun avec nous. Vous avez à bord un échantillonnage assez éloquent de ceux que Jésus a choisis pour révolutionner le monde. Il y a Pierre, le meneur, le crack verbal du moins, champion des grandes déclarations, mais à la tenue de route assez aléatoire finalement. Pierre. Tiens, il y a Nathanaël, le représentant des suffisants planqués sous le figuier de l'autosatisfaction, teinté d'un jugement généraliste. Oh, peut-il sortir quelque chose de bon? Oh, les fribourgeois! Oh, les Genevois! Voilà, Nathanaël. Il y a aussi Thomas, le cartésien assez matérialiste, qui ne croit que ce qu'il voit. Il y a les fils de Zébédée, et puis il y a aussi deux autres disciples qui ne devaient pas représenter grand-chose puisqu'on ne mentionne pas leur nom. Dis donc. Alors, si j'avais été responsable RH, recruteur de personnel, ce n'est certainement pas ce genre de collaborateur que j'aurais choisi. Mais après tout, moi j'en suis bien content parce que pour moi, ça signifie qu'il y a quelque espoir que Jésus puisse m'utiliser malgré mes faiblesses et malgré mes imperfections. Parce que si le Seigneur a pu faire de telles splendeurs spirituelles avec de tels gaillards, il y a quelque espoir pour chacun d'entre nous. Amen. On va encore voir un peu ses disciples. Ils vivent une situation intérieure difficile. Ils viennent d'être secoués par tellement d'événements émotionnellement chargés. Comme on l'a dit, leurs attentes sont bouleversées. Rien ne s'est passé comme ils l'avaient imaginé. Puis là, en plus, nuit blanche, nuit d'effort, nuit nulle, nuit bonne à rien. Ils avaient pourtant vu Jésus ressuscité. Il l'avait vu. Hein? Mais cette rencontre ne va pas provoquer le déclic en vue d'une transformation fondamentale de ces hommes et femmes. Il faudra la descente de l'esprit à la Pentecôte pour bouleverser ses disciples. Ça n'existe pas chez les chrétiens. Leur décision de retourner au lac pour y pêcher, je dirais que c'est une réaction de déception, une résignation désabusée, propre à ceux dont les circonstances négatives ont provoqué le découragement, les ont échaudés, ceux dont l'élan est brisé. Est-ce qu'il y a des gens cassés, brisés dans les églises? Cassés quant à leurs attentes, quant au non-aboutissement de leurs espérances, brisés dans leur confiance envers le Seigneur et envers leurs frères, souvent. De ceux qui s'échinent, qui s'essoufflent et qui ne ramènent rien dans les filets de leurs efforts. De ceux qui se sont mis à vivre une vie spirituelle sur la retenue, la défensive, pour se protéger d'une nouvelle déception. Oui, il y a la vie en vous, en nous, en moi. On sait que Jésus est vivant, qu'il est le Seigneur, qu'il est ressuscité. Mais l'élan pour aller de l'avant et surmonter échec et déception, cet élan-là manque. Oui. À ce stade de l'histoire des disciples, il est important d'arrêter de regarder à eux et à leur vécu. Tout comme il est nécessaire, du reste, d'arrêter de considérer sans fin ce qu'il nous arrive, ce qu'on nous a fait ou pas fait, ce qu'on nous a dit ou qu'on a oublié de nous dire, oublié de fêter la fête des mères. Ils n'ont pas pensé à moi. Arrêtez d'analyser le pourquoi et le comment des circonstances négatives de nos vies. Il nous faut écouter ce que Jésus a à dire dans de telles situations. Ah, c'est ça la solution. La solution, c'est pas de faire l'anamnèse du problème, mais c'est d'aller vers la solution, parce que là, dans cette histoire, il y a la solution. Chic. Ou plutôt écouter ce que Jésus ne dit pas. Car pas un mot de reproche de sa bouche. Quand bien même il les retrouve plongés dans leur passé. Pas de remarque, de demande d'explication. Imaginez. Ouais, Pierre, dis donc, franchement, tu te rends compte ce que t'as fait? T'as dit que tu m'abandonnerais jamais, que tu irais jusqu'à la mort? T'as vu comment t'es parti comme un lapin? Tu m'as renié? Alors, tes copains, n'en parlons pas. À peine il y avait un casque romain en vue, ils étaient loin. Hein? Jésus aurait pu dire cela, mais non, pas un mot de reproche. Ni, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? L'appel reste toujours. Arrêtez d'aller pécher. C'est péché de pécher. Mais ce qui est dit de la part de Jésus est lourd de sens. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Mes enfants, eux qui avaient été l'exemple navrant de ce qu'un disciple n'aurait jamais dû être. Mes enfants, traîtres, incrédules, suffisants, poltrons, enfants, paroles d'accueil, de guérison, de pardon, touche de sollicitude en plus. Vous n'avez rien à manger. Vous avez faim. Jésus sait. Il sait. Jetez le filet du côté droit. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que Jésus répète le même scénario que lors de l'enrôlement de ses premiers disciples? C'est significatif. Non, ils ne sont pas disqualifiés, ils ne sont pas rejetés. Il ne les a pas déclarés inaptes au service. Mieux, il ne leur tient pas rigueur de ce qui s'est passé. Leur manque de foi a été flagrant, Je dirais, commencez assez bien faire notre introspection punitive et battre sa culpe tous les jours que Dieu fait. Cependant, comme pour la femme adultère amenée devant Jésus, comme pour Zachée, le péager décrié par tous, comme pour la femme samaritaine qui en était à son cinquième type, Jésus se refuse de condamner. Il offre sa grâce. Waouh! C'est droit du Jésus, on dirait dans le canton de Châtel, non? J'avais une mère neuchâteloise, originaire de Montalcher, vous voyez. Donc, je suis moitié neuchâtelois. Ça, c'est la vallée des pigeons, là. Et c'est une montagne très sympathique sur laquelle on peut faire du rappel, mais il y a une descente sécurisée avec des échelons, des cordes et tout. Faut pas avoir le vertige, mais c'est splendide à faire. Voilà, je ferme la parenthèse géographique. Vient ensuite une parole de guérison. Pierre, m'aimes-tu? S'il y avait un disciple qui devait se sentir mal à l'aise devant Jésus, c'était bien Pierre. Comme il devait être rongé par le remords, le regret. Combien la honte devait habiter son cœur, renier son maître, avec lequel il a cheminé 3 ans. À l'ouïe de cette question, j'imagine que Pierre a dû avaler sa bouchée de poisson de travers. Jésus pose cette question par 3 fois, comme pour faire écho aux 3 reniements. Je peux m'imaginer que Pierre s'attendait à tout, sauf à une telle question. Ce sont des questions thérapeutiques. Jésus vise quelque chose au fond du cœur de Pierre. Il doit comprendre que l'amour de son maître va bien au-delà de sa faute et du simple pardon judiciaire. Jésus n'a pas dit, bon Pierre, écoute, avec tout bien considéré, finalement, ouais, t'as des circonstances atténuantes, allez, je te pardonne, mais tu recommences pas, hein? Pas du tout. Bien au-delà de sa faute et du simple pardon judiciaire. Jésus emploie 2 verbes différents dans ces 3 questions. Les 2 premières questions, c'est le verbe grec agapeo, qui veut dire aimer d'amitié. Mais le 3e verbe, c'est philéo, l'amour d'un père pour son fils et d'un fils pour son père. Par ces 3 questions, Pierre va se rendre compte de l'accueil que lui réserve Jésus. Non seulement il est admis pleinement dans l'amitié de Jésus, mais il est adopté comme un fils. Plus encore, Jésus ajoute, paie mes agneaux, paie mes brebis, sois le berger de mes brebis. Il l'engage comme partenaire. Du reste, à la première pêche miraculeuse, Jésus lui avait dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et là, Jésus lui dit, signe le contrat, il est nouveau là, il est tout neuf. Et c'est bien là ce que Jésus désire en chacun d'entre nous. Il vient nous prendre là où nous en sommes. C'est ce que doit essayer de comprendre celui qui, à un niveau ou à un autre, se sent brisé et cassé. Celui qui vit l'échec et la désillusion par rapport à lui-même, à son entourage, en fonction de ses attentes déçues, ça peut être au niveau du couple, professionnellement, avec ses enfants, avec son église. À nos doutes, et nos condamnations intérieures, il offre son amour. Il nous invite à nous détourner de nous-mêmes, à vivre un dépassement salutaire. Il nous propose de l'aimer. Car Jésus sait que c'est dans cette relation de cœur avec lui que se trouve notre voire nos guérisons, ce dont nos cœurs ont si souvent besoin. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je trouvais ça dans Jean 12. J'ai l'habitude de dire à ma communauté, pratiquons la présence de Jésus. Les hindous ont des mantras qu'ils répètent des milliers de fois par jour pour se laver le cerveau et puis faire le vide. Nous, nous faisons le plein par la présence de Jésus en nos cœurs, en nos vies. Et ça nous habite même dans nos rêves. En tout cas, c'est mon cas. Il n'y a pas de nuit où je rêve un truc d'église, de situation, de Bible, de machin. Jésus veut aussi habiter nos rêves, nos vies entières. Quand on est au supermarché, ne pensez pas que Jésus est resté dans la voiture, hein. Il est là, avec nous, à côté du chariot. Ne pensez pas que Jésus est sorti de la voiture quand vous faites un excès de vitesse. Il est là, avec nous, il voit. Le pasteur Stalin, il disait, « Ah, il faut faire attention, parce qu'en France, le Saint-Esprit sort à 130. » C'était tellement lui. Vous l'avez connu peut-être, certains d'entre vous. Hein? Ouais. Feu le pasteur Stalin, il est dans la gloire, il chante avec les anges. Mais pratiquez la personne de Jésus. Ça commence le matin à jeun devant le miroir, avant le premier café. C'est pas le premier café qui vous donne la joie de vous lever, c'est Jésus. Il est là quand vous remplissez votre feuille d'impôt et que vous sacrez contre le gouvernement ou le bureau des taxes. Il est là. Pratiquez la présence de Jésus. Lui seul peut guérir nos cœurs. Lui seul peut nous redonner l'énergie, la vitalité, renouveler notre appel au quotidien. Lui seul peut transformer tout ce qui en nous est à transformer. Ça, c'est une barque contemporaine sur le lac de Tibériade. Voilà, vous avez fait un petit voyage. Jésus, nous saisissant donc là où nous sommes, il nous fait confiance. Il n'y a pas de nain spirituel parmi nous. Il y a des enfants de Dieu. D'accord? Et il nous fait confiance, il nous donne de repartir. Je me souviens d'un prédicateur qui disait, peu importe si tu tombes 56 fois, pourvu que tu te relèves 57 fois. J'ai bien aimé. Mais Jésus veut nous faire confiance sur d'autres bases, c'est évident. Parce qu'il veut nous inviter à une relation plus profonde avec lui, comme je vous le décrivais. Pierre puisait dans ses ressources, son énergie et ses passions. Mais maintenant, il va puiser ses élans dans sa relation avec Jésus, dont il a pu mesurer l'amour profond. Et dans cette communion, il va recevoir l'Esprit Saint, qui va le rendre capable d'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait réservée. Alors, frères et sœurs, c'est la possibilité qui nous est offerte aujourd'hui de recevoir cette présence guérissante de Jésus. Il va y avoir la communion, je crois. Oui. Et pendant ce temps, eh bien, vous allez pouvoir concrétiser peut-être ce temps de communion que Pierre a vécu au bord du lac de Tibériade devant Jésus et lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et lui ne nous donne pas de reproches alors que parfois nos cœurs nous condamnent. Et il nous invite à nous relever et à saisir l'offre qu'il nous a faite encore et encore. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et c'est ce que Jean a écrit dans sa première épître au chapitre 3. 1 Jean 3, verset 20. Alléluia. Ça va? On prie un petit coup. Oh Seigneur, comme j'aime cette scène. Comme j'aime t'entendre parler à tes disciples, parce que j'ai l'impression que tu me parles en même temps et que tu ne considères pas mes imperfections, mes échecs, mes doutes, mes reniements peut-être. Tu ne considères pas ce que je suis devenu, mais tu me vois au travers de ton sang qui couvre toutes mes fautes. Et Seigneur, tu ne fais pas de reproches, mais tu invites. Tu ne pointes pas du doigt, mais tu ouvres la main pour bénir. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu veux visiter les personnes qui sont ici et celles qui nous regardent par Zoom. Alléluia, merci Seigneur. J'aimerais être le témoin discret de la démarche que tu fais maintenant devant ton Seigneur. Tu veux venir à lui maintenant. Et tu lèves courtement ta main, je veux prier pour toi, spécifiquement. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Seigneur, tu vois mes bien-aimés qui sont devant toi, et tu les accueilles, et tu as pourvu pour chacun d'entre eux. Alléluia. Merci Seigneur de bénir ceux qui s'approche de toi maintenant comme tout à nouveau et qui viennent t'apporter leurs souffrances, leurs échecs, leurs déceptions, leurs attentes non satisfaites. Approche-toi d'eux maintenant. Et Saint-Esprit, descends sur eux avec puissance. Guéris leur cœur, guéris leur âme. Remplis-les de cette paix extraordinaire dont tu es le prince. Alléluia. Kataria Basala. Ô Seigneur, bénis ses amis maintenant, pour ta seule gloire. Amen. Puis après, eh bien, je vous chanterai une petite chanson, si vous voulez. Parfois, on a la foi en bloc, mais les doutes dans le détail. C'est pas vrai? On a la foi en bloc. On croit en un Dieu puissant, magnifique, existant. Jésus ressuscité, revenant en gloire bientôt, etc. Mais dans les situations précises, nous doutons de la bonté de Dieu, de notre capacité à lui être agréable, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle et c'est lui qui accomplit cette œuvre éternelle qu'il a entreprise dans nos vies. Et j'ai envie de vous chanter ça pour vous encourager. Ça veut aller? Ah oui, non, je ne vais pas mettre le masque. Je vais prendre en mi.
Éternel, qu'il entreprend nos vies. sommes un peuple acheté, malgré nos iniquités, car Jésus a enlevé le fardeau de nos péchés. Il a pris sur lui nos peines et il a brisé nos chaînes. C'est en enfant libéré que nous pouvons approcher. Dieu est fidèle, son amour ne change pas. Il nous appelle à avancer par la foi. Dieu est fidèle et c'est lui qui accomplit l'œuvre éternelle qu'il entreprend en nos vies. L'Esprit a été donné pour nous aider à marcher, à servir avec courage et grandir à son image. C'est au sein de nos faiblesses que nous voyons sa puissance. Esprit de force, de sagesse, dans le calme et la confiance. Dieu est fidèle, son amour ne change pas. Non, 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 il nous appelle avancer par la foi. Dieu est fidèle et c'est lui qui accomplit l'œuvre éternelle qu'il entreprend nos vies.
Vous voulez chanter avec moi?
Dieu est fidèle, son amour ne change pas. Il nous appelle à avancer par la foi.
Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle et c'est lui qui a accompli
l'œuvre éternelle.
L'œuvre éternelle qu'il entreprend nos vies.
Amen. Alors, vu qu'on ne s'est pas vu à Noël, hein, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai à cœur depuis tout un temps de faire cadeau de nos productions musicales. Et puis, le dernier album qu'on a fait, c'est Psaume 2. C'est le deuxième album sur les psaumes. Et là, vous avez toute une quantité de psaumes mis en musique. En fin de compte, je donne un coup de main au roi David, voyez-vous. En toute modestie, je prends ces textes et je les mets en vers, en poésie, en vers et contre tout. Hein. Et puis ensuite, je me laisse inspirer sur mon piano et puis voilà, ça donne ceci. Vous avez la possibilité de prendre gratuitement soit le CD, gratuitement, gratuitement. Ou la clé USB. La clé USB, c'est facile. Et clac, elle se dé... Et puis, elle se met dans votre ordinateur ou votre voiture. Enfin, c'est une nouvelle voiture. Allez mettre un CD. Vous pouvez jouer au frisbee avec, mais pas plus. Hein. Et puis, les nouveaux ordinateurs, allez mettre... Il n'y a plus la fente hein, pour le CD. Donc, ça, vous pouvez, avec la clé USB, charger votre ordinateur, ensuite charger votre téléphone portable. Et puis, si vraiment vous n'arrivez à rien... Vous avez toujours la possibilité d'aller l'écouter sur Spotify. Voilà. Mais vous pouvez prendre soit CD, voilà. Puis si vous connaissez quelqu'un de l'église, vous allez voir prochainement à la maison ou comme ça, prenez-le pour lui ou elle. Hein? Je crois que j'en ai pris assez. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Ah, j'ai oublié de me présenter avant. Hein? Bon, je crois que vous avez à peu près fait le tour du bonhomme depuis le monde, tout à l'heure. Mais voilà. Dans quelques jours, j'aurai l'âge d'une célèbre route américaine, Road 66. Yes. Heureusement qu'on vit pas jusqu'à 666 ans. Hein. Mais voilà, je suis en retraite. Un de mes collègues m'a traité de retraité non pratiquant. C'est un peu ça, mais l'hyperactif que je suis, je ne me vois pas passer le reste de mes jours sur le rocking chair devant la télé en attendant que la mort me frappe. Mais j'ai l'impression que Dieu m'appelle à encore d'autres choses et puis il n'a pas tardé à le faire, puisque bon, je continue mon rôle à Compassion. Je préside Compassion Suisse et puis je suis l'un des directeurs aux États-Unis de Compassion Internationale. Nous sommes une dizaine de directeurs internationaux qui nous retrouvons environ 4 fois par an aux États-Unis pour diriger ce grand groupe humanitaire qui prend soin des enfants dans l'extrême pauvreté au nom de Jésus. C'est notre marque de fabrique et notre force. Actuellement, nous avons 2,2 millions d'enfants parrainés et notre budget est d'un milliard par an, sans argent gouvernemental, simplement par les dons des enfants de Dieu qui croient à l'évangélisation de cette manière. Et je peux vous dire que les églises qui, au monde entier, reçoivent un centre de compassion, elles ont une croissance phénoménale. Et l'armée du salut l'avait bien compris, hein, soupe, savon, salut, un ventre creux n'a pas d'oreille, mais quand on satisfait les besoins fondamentaux de l'individu au nom de Jésus, eh bien, ses oreilles intérieures s'ouvrent, son cœur s'ouvre, et il essaye de savoir pourquoi, au nom de ce Jésus, les gens font ça. Et quand on touche ça du doigt, on est contaminé à vie. Alléluia. Puis voilà, j'ai reçu un jour une demande de Radio Réveil. Qui connaît Radio Réveil parmi nous encore? Ah, quatre ou cinq personnes, mais voilà. En fait, Radio Réveil, c'est une œuvre qui a débuté dans les églises de Réveil, avec Adolphe Hunziker, Ernest Lorenz, Hermann Parly au Tessin, ils ont été les pionniers de cette radio qui se voulait chrétienne et qui voulait annoncer l'évangile. Je me souviens, j'étais gamin, mes parents ont découvert le plein évangile quand j'avais 7 ans. Ça a révolutionné notre vie de famille, je vous dis pas. Mais il fallait avoir fini le repas à 1 heure moins le quart, absolument le gros de la vaisselle faite, parce que à 1 heure moins le quart, sur les ondes courtes, par Radio Monte-Carlo, il y avait Et voici Radio Réveil! Et la voix tonitruante d'Adolphe Hunziker qui chantait Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et là, c'était, dans ma famille, mes parents, c'était, il fallait, c'était aussi attentif que les catholiques à Pâques quand ils écoutent le pape, hein, je peux vous dire. Et puis cette œuvre a évolué, elle a changé de main, elle a changé aussi un peu d'optique et peut-être un petit peu d'acuité, je dirais. Finalement, c'était des spots publicitaires sur les grandes radios françaises. Puis quand c'était près de mourir, du reste, l'un des directeurs précédents avait prononcé la mort de Radio Réveil en disant, en écrivant aux donateurs, si vous trouvez une autre œuvre à soutenir, faites-le. Et ça fait réagir certains en disant, qu'à cela ne tienne, cette radio ne mourra pas. Et effectivement, elle n'est pas morte, elle n'a jamais été aussi vivante que maintenant, puisque c'est la seule radio francophone chrétienne en Suisse qui émet 24 heures sur 24 avec un programme génial. Maintenant, ça s'appelle Radio R. Comme ça. Comme le sticker que vous allez pouvoir mettre sur votre voiture, du reste, j'en ai plein. Vous voyez, vous pouvez choisir, hein, suivant la couleur de la carrosserie, hein, ce que vous regardez, vous évaluez, hein, puis si vous avez des doutes, prenez les deux, puis l'autre, vous mettrez sur votre vélo. Voilà. Et puis, je vous ai apporté une carte de visite qui vous permet de savoir comment entrer en connexion. En fait, c'est très simple. Ne cherchez pas sur la FM, ça n'existera pas. Parce que la FM, dans 2 ans, elle est morte. C'est fini. Ce sera le DAB+. Du reste, vous entendez des spots de publicité vous dire, allez acheter une radio DAB+, vous faites adapter votre vieux poste. Je vous conseille d'aller dépenser 80 francs et d'acheter une radio DAB+. Et sur la DAB+, vous trouvez Radio R, qui émet 24 heures sur 24. La moitié musique chrétienne, moitié musique séculière, mais pas n'importe laquelle, on est d'accord? Hein, parce qu'on ne veut pas la musique qui se fait l'avocat du divorce, de l'adultère, des drogues ou de la violence. Hein. On veut que du bon. Et puis, vous avez des courts messages tout d'un coup un verset biblique qui est lancé comme ça. Et puis, ce matin, en venant, nous avons eu droit à deux prédications de 10 à 15 minutes. Formidable! Celle d'un abbé, l'abbé Vincent Lafargue, qui est abbé à Neuchâtel, dans la cathédrale rouge, l'église rouge au bord du lac. C'est un chrétien comme ça, super! On pourrait le mettre ici, il serait aussi au fait que Florence, serait parfait. Et puis, un message de Daniele Zagara, qui est un ancien pasteur adventiste qui a opté pour la théologie évangélique. Deux messages superbes, impeccables. Et alors bon, si vous n'avez pas de DAB+, il y a d'autres façons d'écouter. Beaucoup ont acheté le bouquet Swisscom TV hein, pour la télé. Il y a des radios, vous trouvez Radio Air là-dessus. Et puis si ça ne marche quand même pas, vous avez un téléphone intelligent, ce qu'on appelle smartphone, eh bien là vous pouvez télécharger l'application Radio Air, et là on vous offre même deux radios, une radio Air standard et l'autre Radio Air louange, avec que de la louange toute la journée. Et puis si ça ne marche pas encore, vous pouvez aller sur votre ordinateur sur radio-r.ch et là vous pouvez aussi écouter. Donc vous n'avez plus d'excuses. Hein. Si le DAB+ ne passe pas bien ici, bien qu'on émette depuis le chasseral, ben vous pouvez toujours avoir d'autres moyens de vous connecter. Mais ce redémarrage de Radio Air, je pense qu'il est dans la volonté de Dieu. C'est un moyen extraordinaire de toucher nos contemporains. Il y a plus de 4000 personnes par jour qui se branchent là-dessus. Et je peux vous dire que d'après ce qu'on peut se rendre compte, il n'y a pas que des chrétiens, de loin pas. Mais dans l'incognito de la vie privée, les gens qui sont intéressés, ils vont voir, ils vont écouter, puis peut-être secrètement ils apprécient, puis ils vont réécouter, puis le chemin va se faire. Et justement, Daniel Zagara, maintenant, occupe une partie de son temps comme conseiller spirituel des auditeurs. Et il a du boulot. Et le boulot qu'il a, c'est avant tout de l'évangélisation. Vous avez envie que la Suisse se convertisse? Hein, vous avez envie que vos contemporains trouvent le salut? Mais là, on a un moyen extraordinaire qui va là où la télé ne peut pas aller. Parce que la radio, on peut l'écouter au volant. On peut l'écouter en faisant son repas, en faisant sa vaisselle. Mais aller faire votre repas en regardant la télé ou en faisant la vaisselle, ça ne va pas. Mais la radio, elle est là. Et alors, c'est clair que c'est une entreprise financière très importante. On doit trouver environ un demi-million par an pour pouvoir fonctionner. C'est très cher d'émettre. Vous payez votre concession Radio TV, 350 francs, hein, mais pour des choses, personnellement, que je n'aurais jamais voulu mettre un centime. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les émissions phares, la RTS et de la télévision, vous avez un guérisseur, un chaman, une médium, etc., etc., et on se fait l'apologie de ces choses. Même une émission que tout le monde regarde, Passe-moi les jumelles dernièrement, il n'y avait que ça. Le secret, on idéalise le secret, voilà, et on paye une concession pour ça. Mais je me dis, chrétiens, réveillons-nous et payons aussi une concession pour l'évangile. Je me dis, si tous les chrétiens de Suisse romande payaient une concession pour l'évangile de 350 francs par an, c'est génial, on aurait ce moyen financé. Alors qu'on est obligé de financer ces bêtises-là et ces choses diaboliques, quoi. J'entendais un après-midi la journaliste interviewer une médecin homéopathe qui disait qu'elle pratiquait le médiumnisme pour trouver ses recettes et faire ses mélanges, et qu'elle conversait avec des homéopathes décédés. Et la journaliste se pâmait d'admiration là-devant. N'importe quoi. Non, franchement, on a un défi à relever. Alors, si d'aventure vous êtes trop riche de 350 francs, pensez à Radio Air. Vous trouvez sur le site ou au travers des coordonnées que je tiens à votre disposition tout ce qu'il faut pour donner un sérieux coup de pouce à et assurer la pérennité de cette radio. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis, j'ai terminé. Mais n'oubliez pas votre cadeau de Noël, hein, avant Noël prochain.
Radio Air. Bienvenue dans la bouffée d'air, c'est Christine et François qui vous accueillent ce matin.
Buongiorno, bonjour.
Très bon réveil et bienvenue à tous dans la bouffée d'air, c'est Jeanne avec vous. Alors ça y est, on repart pour une nouvelle journée ensemble.
Bonjour à tous, c'est Sébastien, nous avons rendez-vous tous les jours entre 16h et 20h sur l'antenne de Radio Air. Radio Air.